Chers frères et sœurs, bonjour. C'est pour moi un honneur et un plaisir et surtout une responsabilité de pouvoir prendre la parole devant cette assemblée des enfants de Dieu. Je voudrais, avant de commencer, remercier Sylvain pour cette confiance et à travers lui, toute l'équipe dirigeante de notre Église pour m'avoir proposé de faire cette exhortation en ce jour. Et comme il le disait au début du culte, que le thème principal aujourd'hui c'est la solidarité. Nous voulons bien vouloir avancer dans le même sens, dont le thème de notre exhortation aussi va porter sur la solidarité. En effet, quand on m'a demandé de pouvoir apporter la parole, évidemment, je suis allé d'abord voir dans le dictionnaire pour savoir exactement ce que veut dire la solidarité. Et je suis allé dans le Robert, pas moi évidemment, c'est le dictionnaire. Et voici ce que le dictionnaire nous dit. La solidarité est un lien entre personnes entraînant une obligation morale d'assistance mutuelle. Généralement, entre les membres d'un même groupe lié par une communauté de destin. Ça peut être une famille, ça peut être une entreprise, ça peut être une profession ou, dans un cas beaucoup plus large, une nation. Dans son sens général, la solidarité caractérise des personnes qui choisissent ou ressentent un désir d'assister une autre personne ou réciproquement. Elle se distingue de l'altruisme dans la mesure où l'altruiste, lui, peut souhaiter aider autrui sans pour autant se sentir concerné par ce qui lui arrive. Cette aide peut être un acte héroïque, comme le sauvetage d'une vie humaine. Il peut aussi être une succession d'actes ou des services quotidiens sans rien entendre en retour, ou encore une manifestation d'un amour désintéressé envers autrui inconnu. Inversement, on peut se rendre solidaire d'autrui simplement par intérêt bien compris, tel malheureusement le cas aujourd'hui pour très souvent dans notre monde, mais là n'est pas notre question aujourd'hui. La solidarité au sein d'une société s'exprime en particulier envers le plus pauvre, envers des groupes ou personnes vulnérables, à l'échelle locale ou beaucoup plus large. Elle peut prendre une forme d'une aide pécuniaire, d'un soutien moral ou d'une aide en nature comme la nourriture, le vêtement, etc. La solidarité peut prendre aussi la forme d'un accueil des réfugiés, tel le cas que nous assistons depuis un certain temps, avec des millions d'hommes et de femmes qui quittent leur pays parce qu'ils sont en guerre et qui vont chercher refuge dans d'autres pays où ils peuvent trouver la paix. Alors, nous allons lire dans Romains au chapitre 13, versets 9 à 10. Romains 13, versets 9 à 10. Alors, le verset 9, je vais prendre uniquement la dernière partie. J'espère que vous êtes arrivés. Romains 13, 9 à 10. et 9, c'est la dernière partie que nous allons prendre. Et j'ai dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bien-aimé, l'amour du prochain, concrétisé par la solidarité entre tous, s'effondre dans la foi au Christ et manifeste l'authenticité de cette foi. Les actes de solidarité rendent visibles les liens qui unissent les chrétiens, visualisant ainsi le corps mystique du Christ, qui est l'Église. Et ces actions sont comme ce qui est dit la dernière partie de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 12, ne cherchez pas, je vais les lire, sont l'occasion de faire des actions de grâce envers Dieu. Chers frères et sœurs, j'ai toujours pensé, et cela n'engage que moi, que le pire des maux dont souffre notre humanité est l'égoïsme. Je crois fermement qu'avec un peu d'humilité et de solidarité de chacun, tous les hommes pourraient jouir du minimum pour leur survie. Alors, parmi les recommandations qui entourent le commandement que nous vous avons lu, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », on trouve un passage très intéressant. Et là, nous allons le lire dans l'Ancien Testament, dans les livres de Lévitique, au chapitre 19, versets 9 à 10. Vous allez voir que le mot « solidarité » n'est pas un mot actuel. Il a toujours existé depuis que l'homme existe. Et à l'époque où Dieu parlait à son peuple, il a instruit à son peuple pour que lui aussi, parce qu'à l'époque, évidemment, comme on peut le constater, les classes n'ont pas évolué. Il y avait d'un côté les pauvres, de l'autre les riches, ceux qui avaient des champs et des richesses, et ceux qui étaient pauvres. Et ce que j'ai pu constater, il y avait même des immigrés. Alors, écoutez ce que dit Lévitique au chapitre 19, versets 9 à 10. Quand vous ferez la moisson dans votre champ, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne le ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en sont tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, vous comprenez un peu que cette situation est d'actualité encore aujourd'hui. Voilà pourquoi le mot solidarité doit toujours résonner dans nos têtes pour que nous puissions voir qu'exactement c'est une injonction de notre Dieu. Alors dans ce texte, nous pouvons établir un lien entre la simple assistance et l'aide. Il s'agit bien évidemment de la solidarité. Dieu ordonne solennellement, nous venons de le lire, à son peuple, de laisser une partie de son champ et de sa vigne pour le malheureux et l'immigrant. C'est une forme de don. Il s'agit en même temps d'une forme d'aide qui responsabilise celui qui la reçoit. C'est le pauvre qui va ramasser lui-même le produit des champs et de la vigne. Ce qu'il obtiendra dépendra du travail qu'il aura fourni. Les pauvres ainsi aidés ne devraient pas ou ne devenaient pas ce que nous appelons aujourd'hui un assisté. Responsabiliser les personnes que nous aidons, c'est reconnaître que ces personnes sont capables de faire quelque chose pour sortir de la pauvreté. Elles ont les potentialités qu'il faut mettre en valeur. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous pouvons saluer et encourager les œuvres caritatives de Synergeia, dont j'ai dit en passant, l'Assemblée générale aura lieu cet après-midi. dans ses actions en Haïti pour une école et pour les orphelins au Bénin. Et nous pouvons aussi saluer les œuvres de l'association Maria Dorcas. Tout cela, c'est pour aider le peuple, les démunis, afin qu'ils puissent trouver, dans la mesure du possible, une certaine autonomie. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul explique longuement le sens de la solidarité. Il déclare que la générosité de disciples doit être à l'exemple de leur maître. Il dit ceci en 2 Corinthiens au chapitre 8, verset 9. Je lis tout de suite. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour nous, des riches qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Et Galates, au chapitre 6, verset 2, va aborder dans le même sens en disant « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et un peu plus loin, dans 1 Jean, au chapitre 4, versets 11 à 12, il est dit « Bien-aimés, si Dieu a ainsi aimé, nous a ainsi aimés, pardon, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Là, je dirais, comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas pendant que nous vivons avec les pauvres, les nécessiteux, les gens qui sont dans le besoin que nous voyons tous les jours? Nous ne les aimons pas, nous les regardons de travers, mais nous prétendons pouvoir aimer Dieu. C'est en quelque sorte un paradoxe. Et de là se pose une question cruciale. C'est de savoir qui exactement devons-nous aider. D'emblée, nous pouvons aider tous ceux dont les besoins se font sentir et dont nous sommes en mesure d'aider. C'est tout à fait naturel. Mais ici, aujourd'hui, je voudrais mettre un accent particulier sur la solidarité entre frères et sœurs. Reconnaissons d'abord l'importance de la relation qui nous lie les uns les autres dans la foi. L'Église est un peuple dont les membres sont frères et sœurs. Il ne s'agit pas là d'une simple formule ou d'une belle image que l'on peut présenter, mais la relation qui nous lie les uns les autres est une réalité surnaturelle et doit durer toute l'éternité. L'importance de cette relation est telle que Jésus nous dit dans Jean au chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » En un sens, cette parole demande la même chose que le commandement de l'Ancien Testament, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais le lien de frères et sœurs en Christ est tel une nouveauté que l'amour manifesté à la croix dépasse tout ce que Dieu avait déjà fait jusque-là. L'amour pour nos frères et sœurs est une application inédite de l'amour du prochain. C'est donc un commandement nouveau comme Jésus, vient de le dire. Par conséquent, la situation de nos frères et sœurs pauvres, à commencer par ceux de notre propre église locale, aura naturellement une importance toute particulière à nos yeux. Cela ne doit pas, cependant, nous empêcher de nous soucier des autres, loin de là. En effet, l'aide envers les pauvres est fondamentalement un devoir d'humanité. Proverbe au chapitre 14, verset 31, ne dit-il pas « qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait, mais qui a pitié du pauvre lui rend grâce. Il rend grâce à Dieu donc. Chers frères et sœurs, nous le savons, tout être humain est fait à l'image de Dieu. La Bible nous enseigne une certaine manière de considérer l'humanité. Mon prochain est mon semblable. Et celui qui est proche de moi est ma propre chair. On peut le trouver dans Ésaïe au chapitre 58, verset 7. Alors il me renvoie aussi à Dieu qui nous a créés tous les deux. Je ne peux pas me désintéresser du sort de mon prochain. En devenant chrétien, nous ne cessons pas d'être humains. Nous ne sommes pas comme transportés dans une réalité spirituelle qui nous couperait de ceux qui ne sont pas chrétiens ou de la société dans laquelle nous vivons. Quand il est question d'aider ou de faire du bien, on ne peut pas faire des classifications strictes. Bien sûr, il y a une certaine priorité accordée à ceux auxquels Dieu nous a particulièrement liés, dont je le disais il y a quelques instants. Mais souvenons-nous de la question « Qui est mon prochain ?» et de la réponse de la parole du bon samaritain que l'on trouve dans Luc au chapitre 10, versets 25 à 37. D'ailleurs, celui qui n'est pas mon frère à la foi aujourd'hui, qui sait qui le sera demain? Alors, nous allons lire un autre texte dans 2 Corinthiens au chapitre 9, versets 6 à 8. 2 Corinthiens au chapitre 9, versets 6 à 8. Voici ce qui est dit. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres, selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents. Bien-aimés dans le Seigneur, les fréquents appels ponctuels parfois à la solidarité dans nos sociétés modernes dont nous sommes confrontés, en l'occurrence, les victimes de tsunamis ou d'un tremblement de terre quelque part, les appels périodiques comme le Téléthon ou pour les Restos du cœur, s'inscrivent dans une longue histoire et qui renvoie à chacun à cet élan de solidarité qui doit nous animer. Ayons toujours à l'esprit ce que la Bible nous rappelle du jugement des nations que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 25, versets 34 à 40. Et je vais terminer par cette lecture-là, parce qu'il m'a été demandé d'être un peu court compte tenu des circonstances d'aujourd'hui. Matthieu au chapitre 25, versets 34 à 36. Voici ce qui est dit. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir vers moi. Les justes lui répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Je voudrais terminer cette petite exhortation par une petite histoire amusante. En fait, il s'agit d'un petit oiseau que vous connaissez tous, le colibri, qui, un jour, en passant dans la forêt, il trouve quelque part dans la forêt en train d'être brûlée. Elle est en train d'être ravagée par des flammes, de feu. Alors, se sentant démunie, la colibri court vite vers un cours d'eau et prend une goutte d'eau pour venir jeter sur la flamme. Et elle le refait inlassablement. Elle va vers l'eau, elle vient avec une goutte, elle jette, elle va dans l'eau et prendre une goutte, elle vient jeter sur la flamme. Et tout à coup, un animal grand vient jusqu'à ce point-là et observe le colibri en train de faire tous ses va-et-vient. Alors, d'un air mon cœur, je veux dire, il dit, mais colibri, tu penses vraiment que ce que tu es en train de faire là, avec des va-et-vient, avec des gouttes d'eau, tu vas éteindre ce feu? Le colibri qui lui regarde, il lui dit, non, je sais que je ne suis pas capable d'éteindre ce feu-là, mais au moins, je fais ma part. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et que Dieu vous bénisse.